This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Je suis très heureux de vous retrouver. Voici les titres de votre journal. Un accord a été trouvé entre la direction de Sciences Po et les manifestants pro-palestiniens. Le blocus a donc été levé en fin de soirée. Des tensions ont éclaté ce vendredi rue Saint-Guillaume entre des manifestants pro-palestiniens et pro-Israël. Nous ferons le point sur cette journée mouvementée devant Sciences Po Paris dans un instant. Le conflit au Proche-Orient embrase également les universités américaines. De nombreux campus font face à des manifestations pro-palestiniennes. C'est le cas à New York, à Washington, mais aussi sur la côte ouest des États-Unis. Des centaines de personnes ont d'ailleurs été arrêtées depuis le début de la semaine aux États-Unis. Les taux d'élucidation des crimes et des délits sont en chute libre en France. Le ministère de l'Intérieur a publié les chiffres et ils ne sont vraiment pas bons. Entre 2017 et 2022, on est passé d'un taux d'élucidation de 81 à 69% pour les homicides. Et puis le trafic de prégabaline explose à Marseille. Il s'agit d'une drogue très dangereuse, peu connue et qui se consomme sous forme de gélules. Un réseau a été démantelé par la police il y a 3 jours dans la cité phocéenne. Plus de 1000 gélules d'une valeur de 8100 euros ont été saisies lors de perquisitions. À la une donc cette nuit, un accord a été trouvé ce vendredi soir entre la direction de Sciences Po Paris et les manifestants pro-palestiniens. Le blocus a donc été levé et les manifestants ont quitté les lieux dans la soirée. Des tensions ont éclaté ce vendredi rue Saint-Guillaume entre des manifestants pro-palestiniens et pro-Israël. Les forces de l'ordre sont intervenues très tôt dans l'après-midi. Aminata Demphal, Adrien Fontenot, Audrey Berthaud et Raphaël Lasserey.
À Sciences Po ce vendredi après-midi, la tension était à son comble. Face à la mobilisation pro-palestinienne, les partisans israéliens se sont également rendus sur place pour faire entendre leur voix.
Nous, on est là pour empêcher la confrontation. Ce qu'on veut, c'est du débat. Ils nous empêchent de débattre. C'est Sciences Po qui doit agir maintenant pour éviter ça.
Pour séparer les deux camps, les forces de l'ordre ont formé un cordon de sécurité. Tous ont été dispersés, sauf les militants pro-palestiniens ralliés par la France insoumise et présents devant l'établissement depuis le début de la mobilisation. Un climat que dénonce ce professeur qui exerce en temps normal à Sciences Po.
Je pense qu'il ne faut pas confondre un lieu d'enseignement et un lieu de propagande. Voilà ce que je pense de la venue de Rima Hassan. On sent une tension qui est en train de monter, Et je pense qu'il est temps que cette tension, elle retombe. Il faut qu'elle retombe sur les campus, il faut qu'elle retombe à Sciences Po.
Le comité Palestine de Sciences Po, à l'origine de cette mobilisation, réclame de la direction une condamnation claire des agissements d'Israël. Un accord a été trouvé et a permis de mettre fin à cette mobilisation. L'établissement s'est donc engagé à organiser un débat interne et à suspendre les procédures disciplinaires lancées contre des manifestants.
Le conflit au Proche-Orient embrase également les universités américaines. De nombreux campus font face à des manifestations pro-palestiniennes. C'est donc le cas à New York ou encore à Washington, mais aussi de l'autre côté du territoire, sur la côte ouest des États-Unis. Des centaines de personnes ont été arrêtées depuis le début de la semaine et l'inquiétude grandit forcément chez les étudiants de confession juive. Toutes les précisions sont avec notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel.
C'est un mouvement jamais vu dans les universités aux États-Unis qui a créé un sentiment de malaise, voire de peur, un peut-on lire dans la presse américaine. C'est ce que ressentent de plus en plus d'étudiants sur les campus transformés en champs de bataille idéologique. Les étudiants juifs craignent que l'antisémitisme gagne du terrain. Certains préfèrent rester chez eux et suivre les cours en distanciel. Jamais les directions d'université n'étaient parues aussi vulnérables, affaiblies par leurs difficultés au nom de la liberté d'expression à sanctionner les appels à la violence et les propos antisémites. Elles tentent de négocier avec les manifestants pro-palestiniens pour qu'ils démontent leur campement. Dans une Amérique en pleine campagne présidentielle, eh bien la droite s'impatiente et appelle les présidents d'université à remettre de l'ordre sur leur campus ou à démissionner. Des parlementaires républicains en appellent même à Joe Biden, le président américain, pour qu'il s'adresse aux manifestants, je cite, pro-Hamas qui ferment les campus et protègent les étudiants juifs dans leurs universités.
Les États-Unis qui ont commencé la construction d'une jetée dans la bande de Gaza, un projet qui est destiné à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Il s'agit d'un port artificiel et temporaire qui a été construit grâce à des navires militaires américains. Une délégation égyptienne est arrivée en Israël pour discuter d'une trêve justement dans la bande de Gaza. Une trêve qui donnerait lieu à une libération de tous les otages qui sont toujours détenus dans l'enclave palestinienne. Et dans le même temps, l'armée israélienne prépare une offensive d'ampleur sur la ville de Rafah. Un mot de la guerre en Ukraine et les États-Unis qui critiquent la position de la Chine dans ce conflit. Joe Biden a fait part de son inquiétude concernant le soutien de Pékin à la Russie. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a lui affirmé que l'invasion de l'Ukraine serait plus difficile sans le soutien de la Chine. Écoutez ses propos.
La Chine est le principal fournisseur de machines-outils, de micro-électronique, de nitrocellulose, essentiel à la fabrication de munitions et de propergol, et d'autres biens à double usage que Moscou utilise pour renforcer sa base industrielle de défense. Une base industrielle de défense qui produit des fusées, des drones, des chars et d'autres armes que le président Poutine utilise pour envahir un pays souverain, démolir son réseau électrique et d'autres infrastructures civiles, tuer des enfants, des femmes et des hommes innocents. Il serait plus difficile pour la Russie de poursuivre son assaut contre l'Ukraine sans le soutien de la Chine.
À la une également, la peine de mort prononcée contre un rappeur iranien, Tomaj Salehi, est l'un des visages du mouvement de contestation. Ayant suivi la mort de Mahsa Amini en Iran, le ministère des Affaires étrangères français juge cette peine inacceptable. Explication Mathieu Devès.
Son portrait a été brandi dans de nombreuses manifestations ces dernières années, comme ici à Lyon, pour dénoncer la répression du régime iranien. Tomaj Salehi, un rappeur extrêmement populaire, condamné à mort pour avoir soutenu le mouvement de libération des femmes iraniennes. L'homme était en prison depuis fin 2022.
Il en est sorti, et quand il en est sorti récemment, après une condamnation de 6 ans et quelques mois de prison, il a eu l'outrecuidance, et en tout cas je trouve moi le grand courage, de parler de ce qu'il a vécu en prison, et c'est ce qui lui a été reproché dans un deuxième temps, et ce qui a conduit à sa réincarcération. Donc on a affaire encore une fois à quelqu'un qui prend des risques inconsidérés pour son peuple, pour son pays.
À travers ses chansons et sur les réseaux sociaux, le rappeur de 33 ans avait soutenu le mouvement de contestation déclenché après la mort de Mahsa Amini, une jeune kurde iranienne détenue par la police des mœurs, qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire imposé aux femmes. Le ministère français des Affaires étrangères juge la condamnation à mort du rappeur inacceptable.
La France condamne avec vigueur cette décision qui s'ajoute aux nombreuses autres condamnations à mort et exécutions injustifiables liées aux manifestations de l'automne 2022 en Iran.
L'Iran pratique la peine capitale à grande échelle. Selon Amnesty International, l'année dernière, 853 personnes ont été exécutées dans le pays.
Dans le reste de l'actualité, à moins de 2 mois maintenant des élections européennes, et bien le Rassemblement national est toujours en tête des sondages. La liste de Jordan Bardella gagne même 1 point d'après notre dernier baromètre Opinionway pour CNews Europe 1 et le Journal du Dimanche. Et atteint donc 30% des intentions de vote, la liste Renaissance est loin derrière avec 18% contre 13% pour le Parti Socialiste, troisième donc de ce sondage. Les agences de notation Moody's et Fitch laissent inchangée la note souveraine de la France, et ce malgré la récente dégradation des finances publiques du pays. Le déficit public de la France a lourdement dérapé à 5,5% du PIB en 2023, au lieu des 4,9% espérés. On en vient à cette nouvelle agression après un rendez-vous sur un site de rencontre. Un homme a été attaqué à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, c'était jeudi soir. Une agression par 2 individus alors qu'il pensait avoir rendez-vous avec une mineure de 15 ans. Il a donc été retrouvé partiellement dévêtu et forcément en état de choc. Une enquête a immédiatement été ouverte pour violences volontaires aggravées. Les taux d'élucidation de crimes et de délits sont en chute libre sur le territoire français. Le ministère de l'Intérieur a publié les chiffres et ils ne sont vraiment pas bons. Entre 2017 et 2022, eh bien, on est passé d'un taux d'élucidation de 81% à 69% pour les homicides. Tous les détails sur ces chiffres, c'est avec Florian Doreil cette nuit, regardez.
Des chiffres particulièrement inquiétants. D'après une note du ministère de l'Intérieur qu'a pu consulter le Figaro, le taux d'élucidation des crimes et délits s'effondre depuis 2017. Un constat qui n'a rien de surprenant pour ce représentant syndical.
Si vous avez plus de crimes et délits, donc plus de dépôts de plaintes, donc plus de procédures pour les enquêteurs, qui restent au même nombre, bah forcément, ça ralentit non seulement le délai de réalisation de l'enquête, mais en plus, ça altère le taux d'élucidation.
En 6 ans, l'efficacité dans les enquêtes évolue plus ou moins fortement selon la catégorie d'infraction. Dans le détail, si le taux d'élucidation à 1 an, c'est-à-dire 1 an après l'enregistrement de la plainte ou le constat du flagrant délit, connaît une baisse limitée pour les coups et blessures volontaires en dehors du cadre familial, certains chiffres sont plus inquiétants. Le taux de réussite policière connaît une forte chute pour les homicides, passant de 81 à 69%. Concernant les affaires de violences sexuelles, il chute de 8 points entre 2017 et 2022, malgré une augmentation des faits enregistrés. Un taux d'élucidation en baisse qui peut susciter chez les citoyens une défiance vis-à-vis des services de police.
Quand vous avez une police qui élucide moins les affaires, qui attrape moins les coupables, et que le peu de coupables qu'elle attrape sont très peu punis par la justice, ça tout le monde est d'accord, et ça date d'il y a bien longtemps, malheureusement la tendance qui se développe, c'est la tendance à l'autodéfense.
Pour inverser la tendance, le gouvernement a lancé, en juillet 2023, une réforme complète de la police nationale.
Un adolescent a été interpellé ce vendredi au Mans pour menace terroriste. Ce mineur qui est déscolarisé, menacé de commettre un attentat contre 180 centres d'orientation dans toute la France, de nationalité française et inconnu de la justice. Eh bien, il a reconnu les faits, mais sans mesurer la gravité de la situation. C'est ce qu'a souligné la magistrate en charge de cette affaire. On en vient au témoignage de 2 adolescents victimes de harcèlement scolaire, des menaces et moqueries qui passent par ce que l'on appelle les comptes Ficha, qui se multiplient d'ailleurs sur les applications de messagerie. Sur ces comptes sont publiées donc des photos ou encore des rumeurs sur certains élèves. Le reportage à Nantes, signé Jean-Michel Decaze et Mickaël Chaillot.
Ces 2 amis viennent d'un lycée de la banlieue nantaise réputé pour le nombre de ses comptes Ficha. Selon Sarah, dans sa section, une 30aine de filles sur 50 ont enduré cette forme de cyberharcèlement. Elle-même en a été victime. Une rumeur l'accusait de tarifer ses charmes dans les toilettes.
J'avais la boule au ventre avant d'aller au lycée pendant 1 mois. Puis j'ai fait une pause. Pendant au moins 1 semaine, je ne suis pas allée au lycée. J'ai remis de l'ordre dans ma tête. J'ai fait, ça ne sert à rien d'y penser. On passe outre. Ils sont petits comparés à moi. Il vaut mieux que j'avance de l'avant et je ne les calcule pas.
Les comptes Ficha, comprendre affiché à l'envers, sont créés sur les réseaux principalement Instagram et Telegram. Des rumeurs, des photos, des vidéos intimes, parfois truquées, sont postées, y compris sous la forme de story.
Tout le monde sait. Et puis tu passes dans les couloirs, t'entends, ouais Sarah... la certaine somme d'argent, c'est toi, et ça continue, et puis ça te bouscule dans les couloirs, enfin, ça t'insulte de tous les côtés. Toutes les villes, il y a beaucoup de comptes qui tournent, de plus en plus d'ailleurs, de plus en plus, il y a quelques années, il y en avait moins, mais c'est vrai que maintenant, c'est tout le temps, partout.
Dans tous les lycées ?
Pratiquement tous les lycées, je pense, oui.
En cas de cyberharcèlement, le conseil de ces 2 jeunes filles est de ne surtout pas rester isolées et de se confier à un adulte.
Un nouveau trafic prend de l'ampleur à Marseille. Il s'agit de celui de la prégabaline. Il s'agit d'une drogue sous forme de gélules. Un réseau a d'ailleurs été démantelé par la police il y a 3 jours dans la cité phocéenne. Plus de 1000 gélules pour une valeur de 8100 euros ont été saisies lors de perquisitions. Les images commentées par Aminata Demphal.
Surnommée la drogue du pauvre pour son faible coût, la prégabaline fait l'objet d'un trafic répandu à Marseille. Il y a quelques jours, il a été démantelé et 3 personnes ont été incarcérées. Un nouveau trafic qui inquiète les douaniers.
Il y a à peu près 12-14 mois, on envoyait très très peu de prégabaline. Et puis là, on voit que ça explose. Il y a plus d'autres médicaments détournés pour l'instant, mais comme c'est en phase exponentielle, on risque de le retrouver à grande échelle d'ici peu de temps partout en France.
Initialement commercialisé pour l'épilepsie, les troubles anxieux et les douleurs neuropathiques, la prégabaline est devenue un médicament détourné de son usage, notamment pour ses effets euphorisants.
S'installe en fait une perte de contrôle et finalement il faut prendre de plus en plus des doses importantes avec ce produit pour pouvoir avoir ce type d'effet. Et puis petit à petit finalement on devient addict. Leur vie tourne autour de ce produit, il faut absolument s'en procurer, en acheter dans la rue, falsifier des ordonnances.
Et les conséquences peuvent être très graves.
avoir des pensées suicidaires, il faut être agressif envers lui-même, envers les autres, et s'il prend en plus ce produit, ce qui est très souvent le cas avec d'autres médicaments ou d'autres drogues, il peut faire des tableaux d'intoxication très graves, de coma.
D'après le parquet de Marseille, l'importation illégale de la prégabaline est évaluée à plus de 280 000 pilules pour un montant de plus de 577 000 euros à la revente.
Et puis cette information, l'obligation de vaccination contre la méningite pour les bébés va être élargie à partir de l'année prochaine. C'est une décision des autorités sanitaires pour faire face à l'augmentation des infections graves. Le vaccin sera largement pris en charge par l'assurance maladie. Des cas de dengue ont été détectés en France. Retour de vacances, chaleur ou encore retour des moustiques. Eh bien, cette maladie se développe donc dans l'Hexagone. Entre le 1er janvier et le 18 avril, près de 1700 cas ont été recensés sur le territoire, contre seulement 131 l'an passé à la même période. Les autorités sanitaires appellent donc à la vigilance. Le reportage à Marseille de leur part.
Les symptômes de la dengue s'assimilent à ceux d'une grippe, ce qui alerte les médecins d'un cas potentiel, c'est si au bout de 72 heures, l'état du patient s'aggrave et s'il revient d'une zone d'endémie.
Dans ces cas-là, il faut quand même prolonger les investigations, donc faire un bilan sanguin standard, y associer une sérologie de dengue pour confirmer le diagnostic de dengue. Alors, en règle générale, la dengue, c'est un syndrome grippal qui se règle en quelques jours. Malheureusement, il existe des formes gravissimes, en particulier la dengue hémorragique, qui peuvent aller jusqu'au choc hypovolémique et même jusqu'au décès.
Le virus de la dengue se transmet par le moustique tigre installé dès les beaux jours sur une bonne partie du territoire. Pour se protéger, éviter la piqûre, il faut utiliser des anti-moustiques, mais de façon rigoureuse.
C'est le mettre 3-4 fois par jour. Parce que les gens qui vont se baigner, par exemple, à chaque fois qu'ils vont se baigner, ils vont se retrouver à perdre le produit anti-moustique. Quand le jour commence à sortir et quand la nuit tombe, c'est là où il y a le plus de moustiques. Donc de mettre des vêtements à manches longues, protéger ses poignets, protéger ses chevilles.
Et utiliser des moustiquaires surtout pour les personnes fragiles, d'autant plus si ces personnes se retrouvent dans des pays à risque. Car quand il y a la dengue, il y a souvent le paludisme ou encore le chikungunya.
Et enfin, on va prendre la direction de Miami dans ce journal avec une expérience immersive consacrée à Lionel Messi. Le site promet des projections à 360 degrés pour remonter la carrière légendaire de cette grande star du foot. Son nom, The Messi Experience, A Dream Come True. Grâce à l'intelligence artificielle, il est même possible de rencontrer le joueur et même d'avoir des conversations virtuelles avec lui. Ça nous fait donc une parfaite transition pour votre journal des sports. Vous restez avec nous. Et on ouvre donc ce journal des sports avec de la Ligue 1 et le match nul entre Montpellier et Nantes, un but partout. Une rencontre qui avait pourtant démarré sur les chapeaux de roue avec deux buts inscrits dès les 7 premières minutes de jeu. Montpellier ouvre le score à la deuxième minute grâce à Akor Adams. Mathis Albin lui répond seulement 5 minutes plus tard, puis plus rien jusqu'à la 90e minute de jeu et l'expulsion du Montpelliérain Arnaud Nordin suite à un high kick sur la tête de Nicolas Cosa. Un match nul donc qui n'arrange malheureusement personne. En Liga, à présent, le Real se rapproche un peu plus du titre grâce à sa victoire face à la Real Sociedad. Une victoire acquise grâce à leur jeune pépite Arda Güler qui est titulaire pour la première fois cette saison. Le jeune Turc a inscrit l'unique but de cette rencontre à la 29e minute de jeu. Score final, un but partout donc, leader du championnat avec 14 points d'avance sur le FC Barcelone. Il faudrait un miracle pour que les Méringuais ne soient pas champions encore une fois cette année. Allez, on passe au tennis dans ce journal des sports. À un mois maintenant du début de Roland-Garros, eh bien, la jeune génération de tennisman tricolores était attendue au tournant ce vendredi au Masters Mills de Madrid. Arthur Fils et Lucas Van Hache, tous les deux 19 ans, comptaient rallier le troisième tour. Une occasion manquée malheureusement. À l'inverse, d'Hugo Humbert, le récit de cette journée, c'est avec Étienne Coudray.
Hugo Humbert gardera un bon souvenir de son entrée en lice à Madrid. Pour sa quatrième participation, le Français remporte enfin son premier match et ce n'était qu'une formalité face au 115e joueur mondial Botic van de Zandschulp. Comme à Miami le mois dernier, Humbert a facilement éliminé le Néerlandais. 1h20 de match et une victoire en 2-7, 6-3, 6-3. Au prochain tour, il affrontera Jan-Lennard Struff, finaliste l'an passé. Lucas Van Aché a failli faire aussi bien que son compatriote. Il a fait douter Sébastien Baez, 19e mondial, et poussé l'Argentin au tie-break dans le deuxième set alors qu'il était tout proche de l'élimination. Dans la troisième manche, il réussit même à breaker son adversaire mais ne parvient pas à conserver son avantage. Il s'incline finalement 6-4, 6-7, 6-3. Le match d'Arthur Fils face à Daniel Altmaier a été beaucoup plus rapide malheureusement. 1h19 et 5 jeux seulement gagnés par le Français qui jouait son premier Masters 1000 comme tête de série. Fils avait pourtant dominé l'Allemand il y a une semaine à Barcelone. Cette fois-ci, ses 17 fautes directes auront eu raison de lui. Il s'incline 6-2, 6-3.
Le week-end de sport mécanique a débuté sur les antennes de Canal+, ce vendredi. Place au 4e Grand Prix de MotoGP de la saison qui se déroule en Espagne. Et à l'issue de cette première journée d'essai libre, c'est Francesco Bagnaia qui a dominé cette course. Meilleur temps ce vendredi. L'Italien s'est même offert le record de la piste. On va l'écouter ensemble.
Honestly, long time that I wasn't in the top three on a Friday, so I'm very happy. My feeling has increased. I will try to be in the front row tomorrow morning. We have to see for the condition because looks that from the weather that can rain, but we have to be prepared.
Et on reste en Andalousie pour terminer ce journal des sports. On va retrouver nos envoyés spéciaux sur place, juste Jules Derembles et Louis Rossi, qui n'ont rien manqué de cette course.
Une très belle première journée ici en Andalousie, le Grand Prix d'Espagne, 4e épisode de la saison. Pas mal d'enseignements, Louis, à l'issue de ce premier roulage, parce qu'on s'aperçoit que Francesco Bagnaia adore cette piste, double vainqueur ici, meilleur chrono du jour, mais que Vinales, dernier vainqueur en date, est là, que Marc Marquez se rapproche petit à petit et qu'Acosta fait toujours autant plaisir à ses très nombreux fans.
Oui, effectivement, tous les cadors de la catégorie sont présents et inclut maintenant le rookie Pedro Acosta qui va se mêler à la bagarre devant quasiment tous les week-ends. Ça roule très très vite, les conditions sont bonnes, on a déjà battu le record et c'est vrai qu'on peut s'attendre à de la grosse bagarre à partir de demain pour les qualifications, pour la sprint, ensuite pour le Grand Prix. Et c'est très difficile de prédire qui peut gagner parce que c'est vrai qu'ici c'est très très serré entre tous les pilotes.
Allez-vous rester bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Un accord a donc été trouvé entre la direction de Sciences Po Paris et les manifestants pro-palestiniens. Le blocus a donc été levé en fin de soirée ce vendredi. Des tensions ont éclaté rue Saint-Guillaume entre des manifestants pro-palestiniens et pro-Israël. Nous ferons donc le point sur cette journée très mouvementée devant Sciences Po Paris. Je vous souhaite une très belle nuit et un excellent week-end sur notre antenne. Et je vous dis donc à tout de suite pour un prochain journal.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.